c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis avec toute la bande, la Teuf de Luma. Flight number 2, arriving. Alors, Gérard Filoche, on vous a demandé de venir pour nous expliquer ce que vous qualifiez de loi scélérate, c'est-à-dire l'accord national interprofessionnel qui a été promulgué en juin dernier, appelé ANI, A-N-I. Pourquoi qualifier cette loi de loi scélérate, mon cher Gérard Filoche?
Dans l'accord qui a été dicté par le MEDEF le 11 janvier, il y avait 28 articles. Et ils étaient tous mauvais, tous contre le Code du travail. Et dans la loi, on doit rester à 17 articles. Elle a été aggravée, c'est peu connu, le 13 juin, par le Conseil constitutionnel, avant d'être promulguée le 14 juin. C'est une loi scélérate parce que, par exemple, sur les complémentaires santé qu'elle instaure, seul l'employeur pourra décider d'où ça va. C'est ce que le Conseil constitutionnel a dit au nom de la liberté d'entreprendre et la liberté depuis 89. Et du coup, c'est 4 milliards qui iront dans les poches d'AXA, de Generali et d'Alliance. Et pas du tout dans les caisses des sécurités sociales ou pour l'intérêt des salariés concernés. Et l'ANI, tous les articles sont mauvais. Ils commencent à s'appliquer de façon catastrophique. Vous avez des plans sociaux accélérés, quick, fast, qui sont en train de se mettre en place, qui ont commencé chez Michelin à jouer les tours, qui se développent dans telle imprimerie, qui avait pourtant des milliards de bénéfices, et qui sont peu à peu en train de se mettre en place, entreprise par entreprise, en commençant par des plans de mutation interne volontaire ou externe volontaire, cassant les carrières. Et si les gens refusent, eh ben, ils seront licenciés à titre individuel. Et comme ils sont obligés d'accepter, eh ben, ensuite, après, on leur impose des transformations avec des allongements d'horaires, avec des baisses de primes, avec des conditions de salaire beaucoup plus basses, comme c'est le cas à PSA. C'est-à-dire que l'ANI, devenue une loi, la loi scélérate du 14 juin, commence à faire des ravages dans le cadre du salariat, de ses droits, et commence à augmenter le chômage, contrairement au titre de la loi, à s'appeler sécurisation de l'emploi. Remarquez, j'ai écouté Flore Pellerin dans une chaîne de télévision hier soir. Elle a concédé que la loi était une loi de flexibilisation et pas de sécurisation. Ben, c'est bien la vérité. La gauche n'a pas été élue pour ça. La gauche, celle que j'aime, celle que je défends, elle fait avancer le code du travail, elle ne fait pas reculer. La gauche, elle n'avait pas pour
mandat. Mais vous appartenez à cette majorité quand même,
mais
Gérard.
Oui, sans aucun problème, parce que je veux la changer. Je ne supporte pas que cette majorité qui a été élue pour redresser le code du travail, pour lutter contre la précarité, pour contrôler les licenciements, elle ouvre la porte à des négociations avec le MEDEF qui aboutissent au contraire. Et le MEDEF, lui, il en profite à 300%.
Ils étaient très contents de cette...
Mais oui. Sans aucun problème. On leur propose 20 milliards de crédits d'impôt, ils en demandent 100 milliards. On leur donne un doigt, ils prennent la main. On leur donne la main, ils prennent le bras. Ils sont pas pour autant reconnaissants à la gauche. Parce que déjà, ils s'apprêtent à soutenir Copé pour qu'ils puissent faire 100 fois plus demain. Et donc, c'est ça le processus qu'il faut dire. Merci à chaque fois de me donner la parole. Je veux me faire entendre de François Hollande. Je veux me faire entendre de Jean-Marc Ayrault. Je veux me faire entendre du gouvernement de gauche. Parce que c'est ce gouvernement-là qui doit faire la politique de gauche. Je veux pas que la droite revienne. Je veux pas que ça permette la victoire de Copé et de Le Pen. Je veux que la gauche qui a gagné en mai-juin dernier 2012, elle se fasse entendre aujourd'hui. C'est pareil sur les retraites. Il y en a qui présentent la réforme des retraites comme étant soft. Elle serait habile. Il y aurait des avancées sociales dedans. Il y en a aucune, c'est comme l'ANI. Elle conserve ce qui a été fait par Fillon et Sarkozy et elle le prolonge. C'est-à-dire l'allongement des annuités de cotisation et les gens, ils croient que ça commence en 2020. C'est pas vrai. Ça continue parce que Fillon l'a prévu jusqu'en 2020. Et maintenant, ça va être de 2020 à 2035. Et je comprends pas mon gouvernement. Il fait un séminaire sur le plein emploi en 2025. Ils sont sérieux. Parce que s'il faut le plein emploi en 2025, c'est pas la peine d'allonger les annuités pour 2035. Ils ont réfléchi longtemps avant de dire ça.
Alors si ça se trouve, on a voté pour la gauche, mais c'était pas vraiment la gauche.
Mais on a bien voté quand on a voté contre Sarkozy. C'était le bon geste à faire. Il faudra le refaire s'il faut battre Copé. Mais après, il faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Parce que si le MEDEF est plus puissant pour pressionner le gouvernement de gauche que nous, il faut aussi que nous, on se mobilise. C'est les mobilisations du 10 septembre, c'est les mobilisations de la semaine prochaine, le 18, c'est les mobilisations après. S'il n'y a pas de mouvement social, le gouvernement de gauche fera la politique sous la pression de la droite. Ça dépend de nous aussi, ça dépend pas seulement d'eux.
Gérard Filoche, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle en général des luttes dans le pays, le climat général.
Mais ce que je disais, c'est l'exemple de PSA. Je crois qu'on n'a pas de meilleur exemple. La direction de PSA s'est tout permis. Elle leur retire les primes de nuit. Elle leur retire des concessions qui avaient été faites sur les heures supplémentaires, qui allaient jusqu'à 45%. Elle va leur retirer des éléments de salaire qui avaient été négociés. Et ils font tout ça comme un bloc, brutalement. Parce qu'ils se sentent encouragés. Parce qu'ils disent, bon, bah, si le gouvernement fait ça dans les conditions actuelles, les gens vont s'écraser. Et pourtant, la direction de PSA, elle est comme toutes les autres directions. Elle a donné 6 milliards à ses actionnaires. L'autre jour, je me suis fait reprendre dans une radio. On m'a dit, ah non, pas dans les 3 dernières années. Ben non, pas dans les 3 dernières années, dans les 6 dernières années. Les 6 milliards, c'était 2 milliards 100 millions pour les actionnaires et 2 milliards 86 millions pour la famille Peugeot, pour qu'elle reprenne le contrôle de Peugeot au cas où il y aurait une succession. Alors, j'ai calculé à quoi servaient ces 6 milliards. Si on voulait garder les 8000 postes chez Peugeot, 8000 qui sont en cause, 8000, on pourrait les payer avec les 6 milliards à 3150 euros pendant 20 ans. S'il n'y avait pas donné 6 milliards aux actionnaires. C'est ça sur lequel il faut mettre le doigt. Pour que des millions de gens voient ce qui se passe. Et qu'on n'a pas besoin de prendre des petits centimes sur nos petites retraites, des petits centimes sur nos petits salaires. Mais que l'argent est là, en face. Et je ne vais pas me faire applaudir tout le temps. C'est un socialiste qui vous parle. Et c'est important que ce soit un socialiste qui le dise.
Oui.
Parce que, ouais, je savais, je l'ai provoqué. Parce que s'il n'y a pas des socialistes pour le dire aussi, nous avons moins de chances de gagner. C'est parce qu'il y a des socialistes qui le disent qu'on a plus de chances de gagner.
Il y a deux personnes qui vous écoutent, Gérard. Ils sont là, une dame et un monsieur. La dame, c'est Monique Pinson-Charlot. Et le monsieur, c'est Michel Pinson. Ils sont très attentifs, ils écoutent très gentiment le camarade Gérard Filot. Je voudrais savoir un petit peu ce que vous pensez de ce que vous entendez là, Monique.
Ah ben moi, je bois du petit lait, mais en même temps, je ne suis pas surprise. Parce que d'abord, je suis passée à la télévision avec Gérard Filot et on était bien copains tous les deux chez TADI. Et puis alors surtout, il y a quelque chose qui nous a réunis le 24 août dernier à l'université d'été du PS de La Rochelle, où j'ai été invitée, et on n'était pas dans la même séance plénière, mais tu m'as dit que tu recevais des SMS. Monique Pinson-Charlot fait un tabac à la séance plénière avec Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. C'était sur les paradis fiscaux, et j'ai été très surprise. Je défendais l'idée que les paradis fiscaux n'étaient pas une arme de destruction massive contre les États, comme le prétendaient la plupart des dirigeants socialistes présents à cette table ronde, mais que l'État était complice et que l'État socialiste, y compris l'État socialiste, était au cœur des paradis fiscaux, dans la complicité avec les paradis fiscaux. Et la salle m'a applaudi. Et Gérard Filoche en est témoin. Et du coup, depuis le 24 août, c'est vrai que je me suis dit, il faut travailler avec tous ceux qui ont une conscience de gauche, mais pas de gauche libérale, de vraie gauche critique pour un changement radical. Et je pense que nous pouvons être main dans la main.
Je le pense aussi.
Merci en tout cas, Gérard Filoch. Vous pouvez rester là, hein, on va parler du bouquin de Monique et Michel qui sort aujourd'hui.
C'est... Non, il est sorti hier.
Hier.
Ah, toujours en retard, Daniel Mermet.
Et vous m'avez dit, oui, on essaiera de venir, mais on a 1000 bouquins à signer, c'est vrai?
Oui.
Mais c'est Stakhanov, enfin, à bas les cadences infernales. Comment on peut résumer votre bouquin? Des chroniques de la financiarisation de l'économie et de la vie?
C'est un travail sur les violences des puissances d'argent, concrètement de la haute société, de la grande bourgeoisie, sur les classes moyennes et surtout les classes populaires. Bon, alors il y a le problème du Parti socialiste. Alors là, dans le bouquin, on parle du Parti socialiste. Et dans ce bouquin, on met en évidence que les changements du Parti socialiste datent de 1983, du virage vers la rigueur du gouvernement de Mitterrand. Et à partir de là, ça a été une adhésion au libéralisme par les responsables du Parti socialiste. Il y a un livre qui a été écrit en 1984. Parmi les signataires, il y avait Jean-Pierre Jouyet, qui maintenant est le patron de la Caisse des dépôts. Il y avait Jean-Yves Le Drian, qui est ministre de la Défense. Et il y avait, cerise sur le gâteau, François Hollande, qui est président de la République.
Oui, ça c'est intéressant. Moi, je ne connaissais pas ce bouquin. En 1984,
François Élie Hollande. Édité par en catimini, édité chez Jean-Claude Lattès.
C'est ça.
Aujourd'hui, ils appliquent ce qui est le programme de cette nouvelle gauche modérée, le moins qu'on puisse dire, nouvelle droite, on pourrait dire aussi. Leur programme, c'est un programme purement libéral, la concurrence, le marché, la libre circulation des capitaux, etc.
Quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas tous les deux se dirait, bon, ben alors, on l'a compris, ce sont des militants de gauche, quoi, d'une gauche assez radicale.
Qui ça, nous ?
Vous deux.
Ah, nous deux.
Vous êtes sociologue, quand même.
Ah ben, on reste sociologue, là, je suis désolée. Hein. Quand on est bon sociologue dans une société aussi inégalitaire, aussi violente que la nôtre, nous, on décrit même une situation de guerre de classe. On parle d'une guerre que les plus riches mènent contre les plus pauvres, avec des armes qui sont financières. C'est un état du rapport de force qui est à la défaveur des classes populaires. Et donc, nous sommes des sociologues militants, si vous voulez. Nous, on n'a pas honte. Nous, on fait notre vrai boulot de sociologue. Et c'est plutôt les autres sociologues qui sont dans leur tour d'ivoire au CNRS et ailleurs qui font pas leur boulot. Parce que dans notre société, c'est des sociologues de combat qui devraient être en nombre autour de vos micros, cher Daniel Mermet.
Sociologue de combat.
Bon.
Gérard Filoche, Michel Pinson, Monique Pinson-Charlot, ce qu'on évoque là, les effets de cette financiarisation de l'économie, on ne cesse de les décrire. Il y a eu un papier dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci, de Serge Halimi, en essayant de trouver des idées pour une reconquête. J'aimerais vous entendre là-dessus, les uns et les autres. Quelles idées vous pouvez avoir ? Qu'est-ce que vous proposez ? Quelles pourraient être des idées pour une reconquête ? Gérard Filoche.
Et moi, je crois qu'elles sont simples. 35 heures vers 32 heures, 60 ans vers 55 ans, un SMIC à 1700 euros et pas de salaire plus supérieur à 20 fois le SMIC. Tout le programme n'est pas dur. C'est pas le programme qui est dur. C'est la mise en confiance de tous ceux qui sont militants sur ce programme. C'est l'unité. S'il n'y a pas l'unité sur un programme commun de ce type, on ne peut pas y arriver. Chacun a son point de vue. Chacun peut défendre ceci, ceci, cela. D'ailleurs, toute une partie de ces revendications seront justes. Mais il faut aller au cœur du problème, qui est de la redistribution des richesses. Et la redistribution des richesses, il nous répondra « Ouais, mais il faut d'abord les fabriquer ». J'ai eu ça comme argument, moi, dans mon parti. On m'a dit « Ah, Gérard, tu comprends pas, on fabrique les bonbons, on les distribuera plus tard ». J'ai trouvé que c'était quand même vulgaire. Il fallait d'abord considérer qu'il y avait les bonbons, et qu'on pouvait les distribuer, et qu'en plus, ce serait une sortie pour l'économie. C'est-à-dire que ça relancerait. C'est pas baisser les salaires, c'est d'augmenter les salaires. C'est pas de diminuer les retraites, c'est d'augmenter les retraites. C'est pas de faire qu'il y ait des heures supplémentaires à nouveau défiscalisées. On réduira pas le chômage de masse sans réduire la durée du travail. Ça ne s'est jamais fait. Le code du travail, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. De 1936 à 2002, on a réduit la durée du travail. On est passé de 40 à 39 à 35. Et tout ça en créant de l'emploi.
Et en augmentant la productivité.
Et même en augmentant la productivité, bien sûr. Alors, toutes les solutions, on les a. Le problème, c'est qu'il y a une dictature de la finance, nous le savons tous, nous la dénonçons tous les jours, qui pressionne à tous les niveaux médiatiques, à tous les niveaux politiques, et il faut pour ça qu'il y ait un mouvement social qui soit plus fort. C'est pour ça que je parlais de 36 tout à l'heure, parce que 36, c'est là où il y a la grève en plus du gouvernement Blum. S'il y avait eu Blum tout seul, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu les 40 heures, c'était pas dans son programme. S'il y avait eu Blum tout seul, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu les congés payés, c'était pas dans son programme. C'est parce qu'il y a eu Blum plus la grève. Et c'est la grève qui a pesé sur Blum plus fort que le patronat.
Alors là, je me tourne vers les sociologues. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette poussée, cette pression actuelle ? Effectivement, qu'on a observé, qu'on a vécu et qu'on a applaudi en 1936. Comment expliquer cette atonie ?
Alors, c'est compliqué. Mais en écoutant Gérard Filoche, c'est vrai qu'on se dit « Bravo Gérard Filoche, c'est super et tout ». Et en même temps, on ne parle pas de la même façon, nous et toi. C'est-à-dire que toi, tu te places sur le plan quand même de l'expertise, tu penses qu'on doit pouvoir améliorer, alors que nous, on pense qu'on n'est pas dans une récession banale, on pense vraiment qu'on est dans une situation de guerre à l'échelle du monde, et que cette guerre des classes, on ne la vaincra, on arrivera à y faire face, me semble-t-il, qu'avec des outils qui soient pas des revendications d'amélioration de ceci ou de cela, mais d'un renversement complet, d'un rapport de force qui aujourd'hui nous est complètement défavorable.
Oui, mais ce que dit Gérard me semble très radical en vérité, non ?
Moi, si je peux me permettre, je vais me faire huer encore, mais la traduction de la Révolution française telle que je la vois, les gens avaient faim,
Alors ils sont allés chercher du pain auprès de Marie-Antoinette. Cette bêtasse leur a dit, si vous n'avez pas de pain, mangez de la brioche. Alors ils lui ont coupé la tête. Mais s'ils étaient partis de Paris en disant, on va couper la tête à Marie-Antoinette, il n'y aurait eu personne au début. C'est-à-dire que le cheminement de la conscience des gens, il est toujours comme ça. Je suis sûr qu'il y avait eu un débat à Paris, on n'y était pas, mais il y en avait qui disaient, faut faire la République. Il y en a d'autres qui disaient, faut abolir les privilèges. Il y en avait même qui voulaient abolir les privilèges avant de faire la République, ou faire la République avant d'abolir les privilèges. Il y en avait même qui étaient pour rompre avec l'assignat, l'euro. Tout ça, ça devait être un préalable à aller chercher du pain. Mais c'est quand on va chercher du pain que les choses bougent. Parce que tout le monde est d'accord pour aller chercher du pain. Et à ce moment-là, la conscience sur toutes les autres questions, c'est-à-dire tous les autres points du programme, tous les points que tu dis radical, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent et qu'ils sont compris par des millions de gens. C'est comme ça le cheminement.
Merci.